mon parvenir est presque. Salut à toi, camarade. Je viens tout juste de finir la préparation de l'émission. Oh, alors, dis donc, c'est la première fois que ça arrive autant sur le fil du rasoir. Comme ça, j'ai sorti les textes de l'imprimante. J'ai sauté dans mes docks et dans ma casquette. Et je suis là pour vous ce soir, camarade. Cette émission censurée avec le DAF derrière le micral à la jactance et le mat derrière l'hypotard à la technique. On est en direct à l'antenne d'RCN, pardon. Je suis un peu remonté à bloc, à donf, comme on dit, hein, à donf, les longs bas, comme on dit dans le jargon. Donc, on est à l'antenne d'RCN, Radio Caraïbes Nancy sur le 90.7 FM, sur les ondes, ainsi que sur le www.rcn-radio.org, sur la toile. Et ce soir, chers auditeurs, chères auditeuses, eh ben, je te propose, après les nouveautés de la semaine dernière, de ces trois dernières semaines, eh ben, quelques petites bonnes vieillerie. Voilà ce que je vous propose, c'est de remonter dans le temps en fait et de faire un bond de 30 piges en arrière en l'an de grâce 1983 pour en finir justement avec l'année 2013 qui s'est terminée depuis un petit moment, le temps qu'on la résume avec un petit récapitulatif discographique. Et je tenais très vraiment très très beaucoup à ce qu'on revienne à inaugurer ce soir cette nouvelle thématique qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Voilà, donc ce soir, j'accouche, donc c'est 30 piges. Il y a 30 piges, en 83. Alors je pensais carrément faire, j'ai préparé ma petite programmation d'immorsif comme d'habitude, et puis j'ai vu les textes commencer à se développer, je me suis dit oh là 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 là, dans quoi je m'embarque, et finalement ça ne rentrera pas en 10. J'avais prévu vraiment une programmation pour comprendre 83. Alors on va se faire une première salve, les amis, on se fera la deuxième la semaine prochaine, et la première salve que je vous propose, c'est de 75 à 78, et ça démarre, et ben non, ça démarre pas comme ça. Ça démarre par une petite question. Pourquoi commencer en 83, justement ? Ça fait déjà symboliquement, en 83, 6 ans au minimum que le punk déferle sur scène aux États-Unis avec les Stooges, les Ramones, les New York Dolls en l'occurrence, en Angleterre avec Sex Pistols, Clash, Damned, tout ça. Elvis n'y survivra pas, d'ailleurs, qui clame ça en août 77. Mais en France, Giscardiane, ils ne sont pas nombreux, les précurseurs du mouvement punk puis alternatif, mais ils sont bel et bien là. En dehors de la variété commerciale et insipide, point de salut, ce qui crée évidemment un énorme gouffre entre les productions musicales du moment et les réels besoins et attentes d'une jeunesse en mal d'avenir et d'identité. Pour cette génération spontanée, malgré le marasme culturel ambiant, tout est à faire, tout est à inventer. Do it yourself, c'est la seule base possible puisque rien n'existe à ce niveau. Pas encore. Les salles à Paris, c'est Golf Drouot ou Gibus, des survivances d'une autre époque, quoi. Sinon, rien. Et en province, c'est le néant total. Le punk est la fenêtre de libération d'expression et de créativité multi-artistique idéale pour cette jeunesse qui ne se reconnaît nulle part et qui s'engouffre dans cette brèche béante par dizaines, puis par centaines, puis par milliers, en créant leur propre avenir par une culture qui lui est propre, les mains dans le cambouis et la rage au ventre pour hurler son dégoût définitif et son rejet total d'une société sclérosée qui n'a plus rien à proposer. Puisque rien n'existe pour nous et que personne n'en a rien à foutre de nous, eh ben, on va tout créer par nous-mêmes et allez tous vous faire enculer. C'est l'histoire que je vous propose de raconter ce soir autour des quelques premiers groupes punk, entre autres, bien sûr, parmi les plus représentatifs, les plus vindicatifs, les plus fédérateurs, les plus mythiques, à qui tous les groupes sans exception qui tournent aujourd'hui doivent absolument tout. Alors, pourquoi 83 et pas 77, par exemple ? Parce que 83, c'est un vrai tournant, pardi. 83, c'est l'année du grand renoncement mitterrandien. Après 2 ans de pouvoir, celui qui n'a jamais été qu'un collabo péténiste, devenu socialiste par pur arrivisme en créant l'Union de la gauche dans le seul but de parvenir à ses fins, en utilisant l'espoir populaire et en le trahissant au moment opportun, fini le tout est possible, fini l'utopie post-68arde. La récréation aura duré 2 petites années à coup de symbole, on peut dire ça comme ça, pour marquer le coup, et qui, en définitive, ne coûte pas grand-chose, il sera toujours temps d'y revenir plus tard. Tel que l'abolition de la peine de mort, bon ça heureusement on est toujours pas revenu, la semaine de 35 heures, la cinquième semaine de congés payés, la baisse de l'âge de la retraite à 60 ans et la régularisation de la situation des travailleurs immigrés. Mais que voulez-vous, ma petite dame, c'est la crise déjà. Ou encore, ça dépend dans quel temps on se place. Il faut se relever les manches et arrêter de rêver, dixit Yves Montand en prime time à la télé dans une émission puante qui marquera les mémoires. Vive la crise. Il est grand temps pour Mitterrand d'appliquer le seul et unique programme possible pour tout homme de pouvoir qui se respecte, à l'instar de Reagan et Thatcher. L'ultralibéralisme univoque est bientôt triomphant. 1983. C'est aussi la marche pour l'égalité et contre le racisme, alors que les communistes se font virer du gouvernement et que le Front National commence à péter des scores électoraux inédits. Cela expliquant ceci, les deux étant récupérés par les cadors du Parti Socialiste avec la complicité des médias, la première, surnommée ironiquement puis officiellement la marche des beurs, étant récupérée par phénomène de phagocytage cynique pour mieux la vider de son contenu contestataire, spontané et populaire. Le second, le FN, donc, pour agiter un hochet qui servira à diviser la droite par son extrême. Très intelligent. 30 ans exactement après, on se rend bien compte des bienfaits de ces minables petites manipulations politico-politiciennes. Merci François. Et là, ça démarre. Merci François. Lequel? Le vieux ou celui de maintenant? Il n'y en a vraiment pas un pour récupérer d'autres. Allez hop là! Star Shooter, les amis!
Danser c'est comme un fou, comme ça pendant toute la nuit. J'ai pas résisté, elles m'ont dit que tu vas craquer. Une fois arrivé, elles ne s'étaient pas trompées. J'ai jamais vu ça, moi. Une villa comme ça. J'ai jamais vu ça, moi. Une vie comme ça. Et j'ai dansé, je me suis défoncé comme un rocker endiablé. Oui, mais sans arrêt, je regardais cette beauté. Elle me souriait, je n'arrivais pas à parler. Plus elle est sortie, alors là je l'ai suivi. J'avais l'air de quoi, là.
Bienvenue, bienvenue et merci d'être à l'écoute d'émissions censurées, les amins. Eh ben, on démarre bien avec, je vous avais promis, hein, du mythique. Eh ben, ce morceau-là, on peut carrément dire qu'il est vraiment très, très mythique. C'est Betsy Party. Vous l'aurez peut-être reconnus, c'est deux Star Shooter, issus du premier album de Star Shooter qui s'appelle, je vous le donne en mille, Emile Star Shooter, qui est sorti en 78 chez EMI Records. Voilà, donc et ben le thème de le soir, vous le connaissez déjà, donc on va vite enchaîner avec, avec une... on va essayer de se passer... 6 groupes, ça va être bien. Donc de 75, on démarre en 75 avec Star Shooter, puisque Star Shooter, ils viennent de Lyon. Ils sont formés justement en 75 pour se séparer en juin 82. Leur premier album, dont on vient de s'écouter un extrait là, Betsy Party, il contenait 13 titres, un long player donc, et il est sorti, ça je vous l'ai dit, en 78, je crois l'avoir dit. Dans tous les cas, le line-up de Star Shooter, eh ben, c'est Kent Hutchinson au chant et à la guitare, Jello à la guitare, c'est Mickey Snack à la basse et Phil Pressing à la batterie. Les premiers groupes punk en France avec Star Shooter, hormis Plastic Bertrand bien sûr, Ses Bijoux et Taxi Girl et quelques autres, très inspirés en tout cas par le glam rock, Bowie, Roxy Music, etc., qui donnera naissance à la New Wave un peu plus tard, puis au mouvement gothique en mutant avec le punk encore un peu plus tard. Bref, à cette époque, près 77, le peu de groupes qui apparaissent commencent à poser l'attitude, la posture, l'apparence, bref, la forme, mais pas encore le discours et les actes autonomistes et libertaires, bref, le fond. On est aux environs de 75, et c'est là que Star Shooter se met en piste. Après un certain nombre de concerts, première partie des Damned, par exemple, ou Jack Higelin aussi, le groupe signe chez EMI, tout comme les Sex Pistols, d'ailleurs, qui beugleront, d'ailleurs, un bon gros morsif en forme de bon gros doigt d'honneur, en hommage à leur brillante maison de disques. EMI, ça vous rappelle certainement quelque chose à l'oreille. En 77, le premier 45 tours de Star Shooter sort dans la foulée, Pin Up Blonde, face B, Quelle Crise, Baby. En 78, détournement du célèbre Get Back des Beatles, jugé trop irrévérencieux, on croit rêver, et qui contrarie leur maison de disques, EMI, toujours, qui possède aussi les Beatles en catalogue. C'est pour ça. Du coup, le disque est retiré de la vente au bout d'une semaine. Malgré tout, Star Shooter réussit à faire entrer Betsy Party en tête des charts d'Europe 1, chose incroyable pour un titre rock français musclé. Le mot est de Wikipédia, hein, le texte. Je m'en suis très très fortement inspiré. Donc pour un titre rock français musclé en 78, le groupe s'impose avec Téléphone comme un nouveau phénomène du rock français. Le premier album, simplement intitulé Star Shooter, sort en 78, ça vous le savez maintenant, et est très bien accueilli, mais la reprise des Beatles qui est créditée en face B est barrée au dos de la pochette et ne figure même pas sur le disque lui-même. Mode sort en 79 avec le sous-titre « Cette année, la jeunesse sera intelligente et sexy » où se mêle punk, son punk et des influences new wave et disco. Les ventes du disque sont décevantes et le départ de leur producteur Philippe Constantin les pousse à quitter EMI. C'est là qu'ils signent chez CBS et partent en Angleterre, hein, comme quoi ça devient plus facile de tourner en Angleterre, pour enregistrer un nouvel album avec le producteur Mike Glossop. Pas fatigué. Le nom de cet album sort en novembre 80. Un album sombre, dépressif, toujours d'après Wikipédia, au style musical plus affirmé, plus mûr, et qui ne reçoit pas le succès escompté. Une tournée baptisée Tora, Tora, Tora suivra, au cours de laquelle est enregistré le live, mythique live, qui sortira en 2004. Seulement en 2004. 6 mois après la sortie de Pas Fatigué, Star Shooter se sépare. Kent entame alors une riche carrière solo qui continue toujours, mais c'est une autre histoire dans une autre vie. On va passer maintenant ce qu'on sait tout sur Star Shooter. On va changer de doc, de référence. Pour l'instant, c'était Wikipédia, j'ai rien trouvé sur Star Shooter dans Nyark Nyark. Alors ça, je voulais tout de suite vous le citer parce que ça va être beaucoup de copier-coller d'interview, vous allez voir, Nyark Nyark, c'est la base du bouquin. Donc, c'est sous-titré « Fragments des scènes punk et rock alternatifs en France » de 1976 à 1989. Ça a été écrit, compulsé et mis en page par Arnaud Rootboy et c'est sorti aux éditions FZM. Ça vous dit quelque chose si vous êtes des fidèles teurs et teuses d'émissions censurées FZM Folklore de la zone mondiale, le label des Bérus. Donc, alors, on va... Après Betsy Party de Star Shooter, après Star Shooter, on va s'attaquer à Metal Urbain, qui est aussi un sacré monument. Alors, Metal Urbain, ils sont de Paname. Ils sont formés en 76, première séparation en 80, reformation de 84 jusqu'à 87, et puis reformation en 2003 jusqu'à aujourd'hui, même si ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler d'un concert de Metal Urbain. Alors, Metal Urbain, ils jouent avec de la boîte à rythme. Ça, je tenais à le dire, on s'évoquera ça pendant les deux émissions, les deux heures. Metal Urbain, c'est au chant, c'est Claude Panic, hein, vraiment au départ. Claude Panic va assez vite démissionner en 79, je crois. Il sera remplacé au chant par Éric Desbris, qui joue Éric Desbris, qui est toujours le chanteur d'ailleurs de Metal Urbain, qui joue dans la formation de départ aux machines surtout. Machines, on y retrouve aussi Zip Zinc. Et à la guitare, c'est d'abord Ricky Darling, puis ensuite Hermann Schwarz et Pat Luger. Donc on va s'attaquer maintenant à Metal Urbain et on va écouter une interview. Enfin, je vais vous la lire. Une interview d'Éric Desbris parce que c'est quand même les premiers concernés qui en parlent le mieux. Alors j'ouvre les guillemets, je cite Éric Desbris. On fait partie de ceux qui sont assis au fond de la classe, qui sont plus préoccupés par le dernier disque qu'ils ont acheté que par le cours de maths, c'est tout. En fait, faire du punk rock à l'époque, c'est vouloir faire du rock'n'roll différemment de ce qu'on voit. À la fois au niveau musical et des textes, l'attitude, revenir au rock'n'roll. Donc on était spectateurs de cette scène-là. Et quand on a grandi, on a voulu faire du rock'n'roll plus vite, plus dur, plus violent, etc. Avec des textes qui parleraient de trucs qui nous touchent à ce moment-là, de politique, parce qu'écrire des textes genre « Tu m'as quitté, baby, reviens », si tu veux, ça avait été fait et refait. On avait la volonté d'utiliser le synthétiseur et des guitares pour faire une musique violente, contrairement à la musique planante qui se faisait avec des machines. Mais ça n'allait pas assez loin pour nous. On a tenté un truc avec machine et guitare et au cours de cette répétition, un de nous, je sais plus si c'est Zibzink ou moi, fait « Ouais, c'est du métal » et l'autre « Ouais ». Mais urbain, alors c'est du métal urbain. Et là, on a décidé finalement de faire des morceaux de 3 minutes, de les ramener à un format rock, de trouver un chanteur. Sans penser faire du punk rock ou autre, parce qu'on faisait ce qu'on voulait faire. Et puis, il n'y avait pas le style punk. Le punk au départ, c'est chacun fait sa musique avec son style. Les mecs ne faisaient surtout pas la même chose que le voisin. C'est à partir de la deuxième vague que les mecs ont commencé à faire du punk rock, et là, pour moi, ça commence à partir en couille, parce que c'est pas un style, le punk rock, c'est une attitude. Donc, il y a un problème. Le seul fait de sortir dans la rue, c'est de la politique. Quand tu vis et que tu ne te contentes pas d'exister, c'est politique. Si tu existes, tu te lèves le matin, tu vas bosser, tu rentres le soir, tu vas voter une ou deux fois par an, et tu meurs une fois que t'as touché ta retraite. Mais quand tu vis, ta vie, t'essayes de l'inventer, donc du coup, tu ouvres les yeux, les oreilles et puis ta gueule. On est politique, mais surtout pas politiquement correct. On est très, très incorrect. panique, anarchie. C'était Métal Urbain. Métal Urbain avec Panique, donc le titre du morceau qu'on vient de s'écouter, issu de leur premier 45 tours du même nom, Panique, avec deux titres, dont celui qu'on vient de s'esgourder en face A et en face B, c'est Lady Coca-Cola. Un morceau bien tubesque, bien mythique aussi, de Métal Urbain. Donc ce premier 45 tours, il est sorti chez Sésame Cobra, qui, je me suis un petit peu renseigné, absolument pas, ni aujourd'hui, ni à l'époque, un label punk, mais un label de funk, pardon, ma langue a fourché entre funk, punk, pardon, et folk, donc il fallait bien entendre folk. Et le premier 45 tours, pour tout vous dire, est sorti en mai 77. Donc, Métal Urbain, ça je vous ai déjà dit, formation 76, oui, pareil, je vous ai tout dit. Donc on va retomber sur la petite interview d'Éric Desbris, qui a encore des choses à nous dire. Le premier concert, c'est 76, le 10 décembre 76. En fait, on va faire ce concert. Là, on est en plein dans une attitude punk. le golf Drouot, à l'époque, est rempli de mecs, ce qu'on appelait les babs, le reste des hippies à cheveux longs, sapés avec des fringues, des surplus de la guerre du Vietnam, une espèce de masse verdâtre, avec des sacs américains et des badges dessus, des signes de la paix, des vestes avec des conneries marquées, et puis une attitude de grand duduche. Et nous, là-dedans, évidemment, on a les cheveux courts, on porte des jeans, des t-shirts, des trucs synthétiques, des fringues qu'on trouve encore assez facilement à l'époque, des vieux restes des années 50, des chemises en nylon. Et déjà, le seul fait de porter des jeans droits, des baskets et des t-shirts blancs avec un badge dessus, et surtout d'avoir les cheveux courts, c'est suspect, bizarre, et les gens se méfient. Donc on débarque au Golf Drouot, et là on voit des mecs sapés avec des impairs en plastique, et déjà en montant dans l'escalier, on entend hurler « Révolution, anarchie !» le délire. Donc on fait notre balance, on se ressape, et pour monter sur scène, il y a quelques punks qui sont là, les mecs d'Asphalt Jungle, un autre groupe de potes de Métal Urbain, quelques mecs qui tournent autour de nous. On attaque le concert avec les hippies, les babs, en partie assis par terre. Évidemment, on envoie une musique super forte parce qu'on contrôle en partie le niveau avec notre système. Les mecs commencent à reculer un petit peu, nos potes sont debout, devant, du coup tout le monde se lève, c'est pas un concert assis, et au bout de 3 morceaux, il y a une canette qui vole et passe à côté de ma tête. Là, de manière hyper subtile, je me plante sur le devant de la scène et je fais un salut nazi au mec. Toutes ces conneries autour du salut nazi, on en reparlera peut-être à un moment, parce qu'il y a un truc à clarifier par rapport à ça. Le fait de faire ça, c'est plus pour provoquer le mec en face, parce qu'il vient d'avoir une attitude genre de censure, de te balancer un truc dans la gueule, donc tu lui réponds, tu fais pareil. Évidemment, les mecs commencent à s'énerver, le morceau continue, et à un moment, Claude Panique, le chanteur, se penche, et un mec saute pour essayer de l'attraper par les cheveux. Vu qu'il en a pas, ça marche pas, et le mec se ramasse la gueule. Zipzinc, de son côté, prend un pied de micro, et il saute dans le public avec. Les mecs du premier rang, Asphalt et compagnie, se retournent et commencent à latter dans tous les sens. Ricky Darling, avec sa guitare tournée, est prêt à allumer le premier qui approche de la scène. Voilà, le premier concert, baston général. Elle passe du Golf Drouot, mort de rire, qui vient nous voir à la fin. Bon, ben les gars, vous êtes hors jeu. Ah ouais, c'est vrai, c'était un tremplin. Mais c'était spécial. Et il se marrait. Je pense qu'on s'est revu. Je pense qu'il s'était revu, lui, le taulier, à ses débuts, avec les premiers groupes de rock. Ils en parlent pas, mais je suis sûr qu'avec les chaussettes noires, il y a eu des bastons au golf. Il y a eu tant d'énervés là-bas que c'est forcément parti en vrille. Ils n'en ont jamais parlé pour la légende après âge tendre et tête de bois. Mais lui, il était mort de rien. Et nous aussi. Donc on va très très vite enchaîner, pardon. Ouh, le temps file. On va vite enchaîner avec le groupe suivant, les amis. Après ces bonnes anecdotes, on va très très vite parler d'Oberkampf. Oberkampf, alors c'est un groupe qui est de Paname aussi, formation en 78, séparation en 85, et ils se sont reformés de 2007 à 2010. Alors, le line-up en vitesse de Oberkampf, au chant c'est Joe Hell, à la guitare Pat Kebra, à la basse Serge et à la batterie Dominique. Dixit, Joe Hell et Pat Kebra, c'est reparti. Oberkampf, au départ, ça s'appelait Oberkampf Contingent. Ça a été créé en 78. On a décidé d'enlever le contingent et on a rajouté la croix sur le haut en référence au Who. Le nom venait tout simplement de la station de métro pour aller au Bataclan. On a eu à une époque pas mal de skins dans nos concerts. pas des plus tendres, et qui n'avait pas bien compris le nom non plus. Littéralement, ça veut dire « au-dessus du combat ». Après, on a rectifié tout ça sur scène, en direct, dans les fanzines, en disant qu'on n'avait rien à foutre des nazillons et qu'ils n'avaient rien à foutre là. Ensuite, tout s'est enchaîné. 79, petit concert, MJC, Gibus et compagnie. Ensuite, on a rencontré un mécène. Kebra faisait du stop sur la route. Un mec l'a pris. Kebra lui a parlé du groupe. Ce mécène s'appelait Christophe Bourraguet. Il venait d'hériter d'une somme d'argent. Comme il avait beaucoup d'argent, il s'est dit « Tiens, pourquoi pas la musique ?» Et il nous a quand même sauvé la vie. On s'est fait piquer notre matos par la suite. Il nous a tout racheté. C'était rigolo. C'était vraiment le hasard. Et du coup, on a produit notre premier 45 tours, le 5 titres Couleur sur Paris. Ce disque est sorti en 81. Fin de citation. Et nous allons donc, eh ben, nous en écouter un extrait qui s'appelle Couleur sur Paris. C'est bien foutu. Yeah. Super texte d'ailleurs. Yeah.
Okay. On est gouverné par des couleurs, des chauves, des mecs, des gros et des grands. Imagine un peu la gueule de ton père. Si ces messieurs avaient des cheveux verts, si ces messieurs avaient des cheveux verts. Couleur sur Paris, na na na. Il est temps de changer, na 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 na. Couleur sur Paris. Peinturé, bombe tout. Écris ce que tu penses sur les murs. Écris ce que tu penses sur les murs. Couleur sur Paris, na na na. Il est temps de changer, na 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 na. Couleur sur Paris, na na na. Il est temps de changer, na 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 na.
Oh. fait dub à la fin. C'était donc Couleur sur Paris, Couleur au pluriel. Nanana, Doberkampf, issu donc de leur premier maxi 45 tours, EP, qui s'appelle Couleur sur Paris, sorti en 81, vous l'avez compris, de manière totalement autoproduite grâce à un mécène croisé sur la route en faisant, pendant que Pat Kemra, le gratteux Doberkampf, faisait du stop. Donc on va retourner un petit peu dans l'histoire Doberkampf. Alors toujours avec Pat Kemra attends, merde. Non, c'est pas possible. Et Joel, bien sûr. Wallé. Allez, Doberkampf ne nous a jamais rapporté de thunes. Moi, je bossais de mon côté. J'ai jamais arrêté de bosser, en fait. Parce que la Manche, j'ai essayé, mais bon, laisse tomber. Tu me refuses une fois, deux fois, et après, je perds mon self-control. Et donc, plein les couilles. Alors... Plein les couilles, PLC, c'est le titre de leur premier album qui arrivera un petit peu plus tard. Plein les couilles, parce que plein de refus, plein de dates annulées. C'est pas évident, c'était pas évident. Et en même temps, on mettait toute notre énergie là-dedans. On commençait à être un petit peu au bout du rouleau. À cette époque-là, mais les maisons de disques ne voulaient pas de nous et on était obligés de faire tout nous-mêmes. En fait, c'est Pat qui s'occupait de la partie extra-musicale et qui gérait notre business. Il avait trouvé un petit bureau où il allait tous les jours, avant de venir aux répétitions. Il recréait le travail d'une maison de disques, en plus artisanale bien sûr. C'était vraiment le début de l'autoproduction. On allait voir directement, enfin en l'occurrence Kemra, les banquiers pour leur demander un prêt pour faire ceci ou ça. En fin de compte, une maison d'édition, c'est aussi un banquier. C'est quelqu'un qui te prête de l'argent et qui le récupère. À partir de là, tu peux aller voir n'importe quel banquier. On avait un meilleur accueil dans les banques que dans les maisons de disques. On est peut-être tombé sur des banquiers qui n'étaient pas vraiment contents de leur sort, peut-être des musiciens ratés, qui étaient contents de contribuer à quelque chose en tout cas. C'était marrant, on était les premiers surpris. En plus, on ne se déguisait pas pour aller les voir. On arrivait comme ça avec notre pressbook. Peut-être que maintenant, il y aurait plus de répulsion à notre égard. Pour les concerts, aucune organisation. C'était deux bagnoles, batterie, ampli, tout le matos. Et on donnait rendez-vous au terminus de Boulogne. Dans toutes les stations de métro, il y a des prises de courant et tous les gens étaient au rendez-vous à telle heure. Nous, on était prêts et blam, on faisait le concert, pas très long. Il y avait moins de flics à l'époque. Et quand on avait fini, on remballait et on partait en courant. C'était excellent. Mais en fait, on n'a pas fait tant de concerts que ça. On n'avait pas ce système d'intermittence. Donc, quand tu partais, c'était sur tes vacances ou des congés sans solde. Enfin... ça devait exister, mais pas pour nous. Voilà, c'est un peu pour se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Je crois que c'est assez brillant. Alors, on va... assez évocateur, je trouve. On va enchaîner, non pas avec un morceau, mais avec un autre groupe, les mecs et les filles, avec la souris déglinguée. Alors, impossible de passer à côté de la souris. LSD, comme on dit quand on est fan, comme on dit dans le jargon. Alors, la souris déglinguée, on va rester dans la chronologie de la formation des groupes. Alors, la souris, ils sont de Paris, hein, et ils se sont formés en 76, enfin, ils se sont rencontrés en 76. Les premiers concerts de la souris déglinguée, c'est 78. Et donc, de 76-78 à aujourd'hui, ouais, la souris déglinguée, LSD, ça tourne encore 38 ans après. C'est quand même une exception, parce que la vie de ces précurseurs, de ces pionniers du mouvement punk alternatif a quand même été très, très éphémère. Alors, la souris déglinguée au niveau du groupe, de la formation, du line-up, c'est Ty Luke au chant, hein, formation, le créateur de la souris déglinguée. Donc, Ty Luke au chant, au texte, à la guitare, à la basse, c'est Rico, guitare et cœur, c'est Jean-Pierre M, et batterie et cœur, c'est Jean-Claude. Allez, qu'a-t-il à nous dire, Ty Luke ? Je cite... On a l'habitude de faire remonter l'histoire de la souris déglinguée à 79. Moi, je vais repartir en 73. Je suis dans le deuxième lycée de France, le lycée Hoche à Versailles. J'habite avec ma mère à Vélizy, Villacoublay. Au lycée, je rencontre Jean-Pierre, le guitariste, et deux autres potes. J'achète ma première guitare en 76. On a tous envie de faire du bruit ensemble. 78, on fait un concert dans une petite salle de Versailles, rue des Missionnaires. Entre-temps, Rico est arrivé en juin. Jusqu'à présent, on n'avait jamais rencontré de bassiste, c'était une denrée rare. On décide d'un remaniement à l'intérieur du groupe et on participe à un tremplin au golf Drouot, encore, pour dire au revoir à tout le monde. En 79, on rencontre Jean-Claude. après avoir fait passer des auditions pour trouver un nouveau batteur. Et après conseil de guerre, Jean-Pierre nous dit « c'est lui qu'il faut prendre ». « Oh, pourquoi ? T'as bien aimé son style de batterie ?»« Non, c'est pas ça. Il a une voiture. Il pourra scoltiner sa batterie. » Et donc là, le line-up définitif de la souris, il est là. À partir de là, on se tape tous les tremplins merdiques de la région. On continue à répéter, perturbé par le service militaire de Jean-Pierre. Puis, le 7 janvier 80, c'est le fameux concert à l'Opéra Night. C'était une nouvelle salle de concert qui faisait cinéma, rue Gamon, près du golfe Drouot. Pour aller démarcher le concert, j'étais avec un copain habillé à la Madness, en chapeau, costard. Le programmateur a cru qu'on était un groupe de ska. Je lui ai laissé croire. Il nous a dit qu'on ne gagnera rien à ce concert, et c'est que c'était pour notre promo, qu'on devait amener la sono. Partant de là, j'avais insisté pour qu'un certain nombre de gens puissent rentrer gratuitement. J'avais donc reçu des invitations, que j'ai données, mais entre-temps, les mecs se les étaient photocopiés. La salle était donc pleine à craquer, environ 500 personnes, ce qui pour l'époque était énorme pour un groupe qui ne représentait rien. Le mec de la salle voyait ça d'un super bon œil, en bon capitaliste de comptoir. Je ne dirais pas que ça s'est mal passé, mais le concert a été annoncé trop tôt. Avant le concert, il y avait une séance de film, donc les mecs ont commencé à boire dans les bars d'à côté. Et quand ils sont rentrés dans la salle, ils étaient vraiment très chauds. Et même s'ils consommaient beaucoup, ils ne payaient pas. La tension est montée pendant le concert, le mec de la salle a coupé le son. Là, ça a été la fin de tout. On a remballé assez rapidement, les flics sont venus, Jean-Pierre a été embarqué avec d'autres gens qui avaient fait de la casse. Certains parlent de passer de la révolution à la révolte. Ce soir-là, on est passé de la révolte à la délinquance. Fin 80, le service militaire m'attend dans l'est de la France, mais malgré tout, un bon point pour nous, notre premier disque sort. Ce premier disque est un peu le reflet de tout ça, de ces années où on a accumulé des expériences sur scène et en dehors. Ça ressemble à du vécu et ça ressemble à ça. Rock'n'roll, vengeance. Yeah.
Tu as une chaîne de télévision et moi une chaîne à vélo. Monopole de la violence contre ma délinquance. Pourquoi as-tu peur quand tu contrôles les gars? Pourquoi as-tu peur quand tu contrôles les gars?
Est-ce que tu le sais? Pourquoi je te hais? Pourquoi je me bats toujours contre toi? Je cherche à détruire tous tes préjugés.
Je cherche à détruire tous tes préjugés. Je cherche.
Hop là, la souris déglinguée, les amis. Oh, oh, ça nous a surpris tous les deux. C'est parce que ça vient d'une clé USB, donc on peut pas voir le temps du morceau. C'est pas grave, c'était donc Rock'n'Roll Vengeance, les Aminches, de la souris déglinguée, issue du premier album de la souris, qui porte le même nom, la souris déglinguée, sortie en 81, chez New Rose Records. Première apparition de New Rose. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Dans tous les cas, New Rose, un label et un distributeur très, très important, très, très central dans l'évolution et l'apparition du mouvement punk et alternatif. Donc, sur la souris déglinguée, LSD, leur premier album, donc, il est sorti en 81, non, en 81, oui, c'est bien ce que je voulais dire. On était donc en 80, on va passer en 82 avec Tailuk. En 82, je suis au service militaire, les autres font des concerts, sans moi, à Troyes. Je jouais quand j'étais en permission, j'ai d'ailleurs d'illustres contemporains à l'armée. Riffard, le guitariste de Reich Orgasme, le chanteur de Reich aussi, dont j'ai oublié le nom, et aussi Jean Vert, entre parenthèses, Le parolier de Parabellum prochainement, et des rats aussi, Géant Vert, on reparlera de lui. Alors Géant Vert, par contre, qui n'est pas resté très longtemps à l'armée. Il n'est pas resté très longtemps car il ne voulait pas être militaire pendant 12 mois. Il refusait pas de porter les Rangers, mais de porter le reste. Il a traîné dans la caserne pendant quelques semaines, il avait encore sa coupe d'Iroquois et la tenue de rigueur. Et ces mecs me disent « On a un projet, on veut faire une compilation ». Je leur ai répondu « Bon courage », parce que je voyais comment ça se passait à Paris. Entre les concerts que personne ne paye, les disques que personne n'achète ou que tout le monde vole, comment veux-tu prospérer dans un univers qui n'est pas paisible ? Même en parlant en termes de marché, pour moi, ça ne représentait rien. Mais c'est vrai que c'était des mecs motivés qui ont contribué à humaniser et fédérer la scène. Les premiers à avoir voulu mettre en commun la chose. En 81, je voyais déjà ça au passé. Je savais que ça allait s'arrêter. En 82, je pensais que le public qu'on touchait était vraiment très restreint. Je m'étais trompé et je m'aperçois que cette communauté d'agités et de jeunes gens énervés ne se situe pas qu'à Paris, qui en a un peu partout en France. En 85, on est invité pour jouer à l'usine, un squat à Montreuil. Concert qui n'aura pas lieu. C'était une ancienne usine désaffectée qui avait été plus ou moins transformée en salle de concert. La plupart des groupes de l'époque avaient joué là-bas. C'était un bon tremplin. Sauf pour nous, puisque le jour où on devait jouer, le squat s'est fait déloger et murer. À la suite de quoi, le local de l'usine n'existant plus, Gérald Biot va fonder une association Rock à l'usine, qui va être à l'origine de grands concerts parisiens et provinciaux, avec un peu tous les groupes de l'époque. Fin de citation. Comme quoi, ça commence à prendre. Il n'y a pas de salle, et ben, on en crée nous-mêmes. On va enchaîner avec, dans la chronologie, le groupe suivant que j'ai pu noter pour vous. Le groupe suivant, c'est les Olivenstein. Alors eux, ils sont, exception, de Rouen. On va passer un petit peu en province, parce que là, on était vraiment plus centré sur Paris. Alors avec les Olivenstein, on part à Rouen. Ils se sont formés en 78 pour se séparés en janvier 80, comme quoi eux, ils ont été vraiment très très éphémères. Il y aura une reformation exprès pour les 30 ans merde, j'ai noté ça sur mes pattes de mouche. Bref, ils se sont formés un petit peu plus tard à l'occasion de leur anniversaire ou un truc comme ça, le 6 juillet 2013 pour le festival La Ferme Électrique à Tournan. Voilà, alors les Olivenstein, au niveau du line-up, c'est au texte Eric Tandy, son frangin au chant Gilles Tandy, Alain Royer et Vincent Denis à la guitare. À la basse Bitos et à la batterie Philippe Bailly. Sachant que le nom les Olivenstein vient d'un foutage de gueule sur Claude Olivenstein, qui était un psychiatre français spécialisé dans le traitement de la toxicomanie. On le surnommait d'ailleurs le psy des toxicos, et il était apparemment plutôt progressiste et anti-prohibitionniste, d'après ce que j'ai pu en fouiller vraiment très rapidement. Donc sur la question de les drogues, nous allons donc écouter Gilles Tandy. Début de citation. Mon frère travaillait à Rouen au magasin de disques Mélodie Massacre. J'avais des copains à 7 à Montpellier. On était au courant de tout ce qui se passait. On va former les Olivenstein vraiment par hasard. Eric écrivait des textes derrière le comptoir du magasin. Il ne se doutait pas que ça allait devenir des chansons. Moi, j'aimais bien chanter. Avec Vincent, avec Vincent qui officiait comme guitariste de section spéciale, on a décidé de faire un groupe. Un peu sur un coup de tête. Mimi, le batteur des Dogs, partait à l'armée. Dominique, nous a laissé un local de répétition à disposition. On a démarré avec un texte. Patrick Henry est innocent. Au passage, petite précision. Patrick Henry, c'était le meurtrier d'un gamin de 8 ans dont le procès a été également paréquiché le dernier procès de la peine de mort en fait en France, puisque Robert Badinter, fervent partisan de son abolition, convaincra par sa plaidoirie les jugés de ne pas condamner Patrick Henry à la peine capitale. Voilà, fin de précision. C'est parti comme ça, un dimanche d'avril 78. On avait recruté des gens à droite, à gauche, en plus de Vincent, qui pour l'occasion tiendra la batterie. Le guitariste, lors de cette répète, était le chanteur de section spéciale. Le bassiste n'avait jamais joué de basse. Moi, je n'avais jamais vraiment chanté dans un micro. Il y avait aussi Dominique des Dogs au saxo et Hugues jouait de la guitare. C'est devenu sérieux assez rapidement. 15 jours après, on peaufinait déjà la première formation des Olivenstein. Au départ, c'est un gag, mais très vite, Vincent a pris la guitare, composé des morceaux. Eric a pondu des textes à tire-larigot. On a trouvé un bassiste, un batteur, et en juin 78, un des membres du groupe avait trouvé un truc dans une fête de psy qui commémorait les 10 ans de mai 68 sur les hauteurs de Rouen. Là, on a débarqué et on a vraiment foutu la zone. On est allé très loin. Il fallait aller dans la provoque, on était là pour ça. Notre première prestation, étant rouennais et chantant en français, on y était plus ou moins tricard, sinon Caen et Paris. On n'a jamais joué ailleurs. La scène était quasiment inexistante et il fallait voir les organisations. Les sonorisateurs étaient la plupart d'anciens baloches qui ne comprenaient rien à ce qu'on faisait. Les sons étaient dégueulasses, les scènes n'étaient pas vraiment des scènes, il y avait des trucs horribles. On enregistre le disque en mars 79. Au départ, on voulait tout faire dans la cave, mais Lionel Hermani, de Mélodie Massacre, le producteur des Dogs, nous a poussé à faire ça bien. Il savait qu'il y avait un potentiel énorme. Donc, les trois titres ont été enregistrés et mixés en 8 heures. Le disque est sorti un mois après. Le premier tirage a été épuisé en 3 semaines. Tout marchait avec le bouche à oreille. Mais ça va surtout fonctionner après la séparation du groupe. C'est dommage.
Papi, t'as la vie, mamie. Bon, j'avais vraiment fini.
Ouais, fini,
Euthanasie, plus de soucis. C'était donc Euthanasie des Olivenstein. Un des trois morceaux de leur premier et unique 45 tours qui s'appelle Fier de ne rien faire, sorti donc en 79, en avril 79, chez Mélodie Massacre. C'est donc le premier et le seul 45 tours. Et les trois autres titres, à part Euthanasie, c'est Fier de ne rien faire, ça vous le savez déjà maintenant, et Je suis négatif. Et le premier 45 tours était quand même sorti à 2000 exemplaires. Donc on va retrouver un petit peu le Gilles Tanguy. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Gilles Tanguy, dans tout ça? Il nous dit que les Olivenstein, c'est l'aboutissement de tout ce que j'ai vécu. Avant 75, j'écoutais déjà du rock. Le problème, c'est que j'aimais des groupes morts ou fossilisés. Les Stooges n'existaient plus et les New York Dolls quasiment plus. Et à partir de 75, il y a eu cette explosion. Je me dis, ça y est, je vais enfin vivre quelque chose qui colle à ma génération, à mes envies. La musique va progresser très rapidement, le tempo aussi. Les groupes que j'écoutais en octobre 76 passaient déjà pour des ringards en juin 77. J'étais en province, dans le sud, et dans chaque ville, t'avais un petit noyau de mecs comme moi, à l'écoute de tous ces nouveaux groupes qui débarquaient de Grande-Bretagne ou à la recherche d'obscures rondelles parvenues de je ne sais quel coin du Massachusetts ou de l'Ohio. En 78, pour trouver des concerts, c'est encore la préhistoire. La plupart des groupes punk chantaient en français à l'époque. Il y avait cette envie de chanter en français. On pensait pas encore à la carrière américaine. On avait des paroles plutôt sociales. Ça pouvait être de la dérision, mais elles étaient basées soit sur la vie de tous les jours, soit il pouvait y avoir l'histoire avec Pétain, Darlan, c'était le bon temps. Il faut voir aussi le contexte. En 78, on se fait traiter de petits cons par toute une génération de vieux schnocks. Et la réponse était « Eh oh, il n'y a pas que nous qui avons fait des conneries ». C'était très con, mais il y avait évidemment énormément de degrés derrière. Tout le monde ne va pas comprendre. Là, on aura des problèmes. On a failli se faire casser la gueule, mais on n'était pas dépassés. Le tout était de faire au dixième degré. On prenait ça au dixième degré. On parlait de beaucoup de choses. Ça allait d'une ode à John Wayne, qui était un morceau sur le côté affligeant des western spaghetti, à Fier de ne rien faire, où là, il y avait un message qui est toujours d'actualité. Fin de citation. Et c'est vrai que Fier de ne rien faire, c'est toujours autant d'actualité avec le marasme du travail et du chômage. 30 ans après, ou quelques 30, 35 ans, hein, puisqu'on est encore à la fin des années 70. Et bien maintenant, on va se quitter avec un groupe qui s'appelle OTH. Alors, OTH, comme ça, on reste vraiment de 75 à 78, puisque OTH, de Montpellier, ils se sont formés en 78 pour se séparer en 91. Une vie relativement assez longue, faut bien l'avouer. Alors, OTH, c'est Spi au chant, à l'harmonica et au texte, Much et Domi aux guitares, Phil à la basse et Bebe à la batterie. Et là, on va écouter Spi. En 77, l'état de la scène sur Montpellier, c'était le néant. Comme John Lennon le disait, avant Elvis Presley, c'était le néant. Il avait tort, mais à Montpellier, il y avait vraiment le néant. C'était une ville de droite, encroûtée. Il n'y avait pas de scène pour se produire, à part un vague cinéma, un kiosque, le pavillon populaire. À chaque fois qu'on demandait la salle, elle était de toute façon toujours en réparation. Au niveau des groupes, c'était la même chose que partout en France. Des groupes qui faisaient du copiage d'anglais, qui essayaient de refaire ce que faisaient leurs idoles. Au début, avec OTH, je chantais en anglais, en yaourt. J'écoutais que des trucs en anglais. Ça ne me venait même pas à l'idée de chanter en français. C'est venu au fur et à mesure. Il fallait trouver un nom. Comme au départ, on chantait en anglais, on a regardé dans le dico et c'est le batteur qui a trouvé cette expression. Sur des charbons ardents, on tenter hooks. Cette scène, c'était un peu ça, le brasier. En fait, les concerts au tout début, c'était tous les soirs au local. Le local, c'était devenu une sorte de club déglingué, glauque. Tous les jours, il y avait toujours 4-5 personnes et le samedi entre 10 et 20. Et après, on a eu quelques dates, plus ou moins péraves, le podium midi libre sur la place de la Comédie. On jouait n'importe où. Jamais on s'est dit, on va pas jouer là parce que c'est un truc minable. Tout était bon à prendre. C'était la guerre totale, la solution finale. C'est la meilleure définition de ce qu'on ressentait à l'époque. On était la solution finale à tous nos problèmes. OTH a été connu sur le tard. Pendant 8 ans, on a tourné partout. Le plus souvent, pour rien. On gagnait moins que ce qu'on dépensait pour aller jouer. Pour tourner, c'était simple, on avait besoin de 1500 balles pour faire un concert, c'était intérim, magouille, pour pouvoir payer le déplacement. Le premier album, c'est arrivé en 84, le deuxième 86. On commençait à peser, mais on n'en vivait pas. Un jour, 8 ans après, en revenant d'un concert, il nous restait 10 sacs en poche. C'était la première fois. On nous aurait proposé de signer chez CBS, on aurait foncé, alors que tous les autres groupes alternatifs affirmaient vouloir rester indépendants. Je suis convaincu que si ma vie a changé avec le rock'n'roll, c'est grâce, certains diront à cause, mais grâce à des majeurs et à des labels qui ont eu suffisamment de pouvoir pour enregistrer, supporter des albums et les diffuser dans le monde. Un petit label n'aurait jamais pas pu. Et nous, pourquoi on se serait privé de ça ? De toute façon, ils n'ont jamais voulu de nous. Et je pense à juste titre. Je ne sais pas pourquoi on a fait un label. Peut-être pour avoir une structure, pour être autonome et, et pouvoir sortir nos disques. On essayait de contrôler un peu nos vies. C'est tout. Voilà les amis, donc on va se quitter avec Musique Atteinte d'OTH, issu de leur premier 45 tours, dont Musique Atteinte est la face A. Et en face B, on retrouve Voyou Vaudou, sorti en 82 chez RCA, contrat dans une major qui a vite été rompu par OTH, par volonté d'indépendance malgré tout. Alors, suite au prochain épisode, c'est la semaine prochaine, de 79 à 83, on se retrouve donc... Voilà, la semaine prochaine, je pensais la caser en une, vous avez vu beaucoup de matière, deuxième salve, la semaine prochaine, salut les amis, vive le rock libre.
Merci, bonsoir.